Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 46, le thé et tête.
En gros, je veux dire, j'ai trouvé dans le thé et tête de Platon une question qui est d'ailleurs très mal traduite, comme tout ce qui est platonicien. C'est dans le thé et tête, ce qui passe, c'est comment je vais passer de aisthésis, qui est certainement la sensation, à épistémé, qui n'est pas certainement la science, c'est-à-dire qui n'est pas certainement ce par quoi on l'a traduit habituellement et scolairement, il faut bien le dire, dans cette école de contresens qui est la scolarité, quand on traduit épistémé par science. Épistémé, je dirais, il n'y avait pas de science grecque, ou il y en avait à peine, et ce n'est pas cela que veut dire épistémé tel que cela se déroule et se dévide progressivement dans le thé et tête. Si cela voulait dire quelque chose de précis et qu'on puisse traduire dans un seul mot, ça serait plutôt certitude à condition qu'on oublie le sens que lui donne Descartes, ou assurance en quelque sorte morale, ce que d'ailleurs enfin le épistémère, enfin physiquement, semble suggérer. On a fait une fois en Cagne, avec mon délicieux élève Laurent Perpère, qui a été mon plus brillant élève, et que j'ai gardé pendant de longues années, alors là pour le coup, pour le meilleur d'ailleurs de sa carrière à venir. Il avait une version de tête-à-tête, et moi je passais mon temps à expliquer à mes spécialistes, parmi lesquels il figurait, enfin qu'il était impossible de... Et alors le jour où l'excellent Aslo leur a donné une version du tête-à-tête, j'ai dit à Laurent, mais écoutez, je vais vous la faire, on va la faire ensemble, et je vais le traduire avec les mots que moi je crois devoir y mettre, et il va falloir que vous ensuite vous vous défendiez en face de Aslo, qui a été le malheureux absolument... dématé dans toutes ces certitudes forcément sorbonnardes et scolaires, dans les sens que le bailli donne à tel mot. Et moi, je veux dire, je ne peux pas accepter qu'on traduise épistémé par science. Mais enfin, en tout cas, passer de la sensation à quelque chose qui soit une assurance ou une certitude, je n'ose pas dire une vérité, ni une science, à partir de la sensation. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est le même problème que vous allez retrouver avec Hume, chez qui, pour commencer, il n'y a que sensibilité et rien derrière, comme chez Protagoras ou chez Calliclès, enfin, et tous les sophistes avec lesquels Socrate a à se battre. Il n'y a rien, et il faut que ce soit l'expérience, enfin, qui à peu près fonde et solidifie, même pas fonde, mais solidifie cela. Et que, pour le malheureux de qui Hume a repris l'exemple chez Montaigne, enfin, celui qui se promène là dans sa cage de fer et qui est sujet au vertige, qu'à un moment donné, il puisse s'appuyer contre son vertige, faire contrepoids à son vertige par une idée qu'il a dans la tête. Et le critère de l'idée, c'est pas qu'elle ait une idée vraie, c'est qu'elle ait une idée solide, et qu'elle lui donne un point d'appui, précisément, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment tirée de la réalité, induite et formée progressivement à partir de la réalité, pour lui donner, dans son expérience personnelle et dans sa mémoire, contrepoids à ce sentiment de vacillation que lui donne. Bon, tout ça je sais faire, et je sais combien c'est important pour les élèves d'apprendre à le faire, je sais qu'ils peuvent comprendre cela. Et comment, de là, on aura à passer à une idée qui, au moins par prétention, ne doit plus rien à l'expérience, ni à la solidité acquise de l'expérience, et qui fonctionne toute seule dans une espèce de ciel des idées, où on peut jouer avec les idées toute seule. Et ce parcours dans lequel il y a, ou bien Platon tout seul, parce que c'est son parcours à lui tout seul, chez lui, il y a tout cela, et chez les autres, il y a Leibniz, qui en un sens vient d'Aristote, et qui et en un sens aussi vient de, et pareil à Descartes. Et puis Hume, qui est un Anglais, par conséquent un apatride philosophique, et quelqu'un qui commence à zéro. Enfin, c'est exactement ça, un Anglais en philosophie, c'est quelqu'un qui commence à ras de terre, c'est-à-dire c'est un empiriste, et qui dit merde aux idées reçues des autres. Et Kant, qui, par vocation, dérive d'Aristote et de Leibniz, et qui rencontre à temps sur son chemin Hume, qui le réveille du sommeil dogmatique, bon, dans lequel il risquerait de sombrer. Mais c'est merveilleux d'expliquer ça aux élèves, enfin, c'est un Kriegspiel qu'ils adorent, et leur faire comprendre à ce moment-là qu'est-ce que c'est un jugement synthétique, qu'est-ce que c'est un jugement analytique, et pourquoi, qu'est-ce que c'est qui est a priori, et qu'est-ce que c'est qui est a posteriori. Mais du moment que ça leur est expliqué, que ça ne leur est pas asséné comme des faits de mémoire qu'ils doivent savoir par cœur et ne pas comprendre du tout, ça devient très excitant. Et je dois dire que cette année 68, où j'ai eu à remplacer, comme ça pendant un dernier mois, un professeur malade, qui n'avait pas du tout fonctionné de la même manière que moi pendant tout le reste de l'année, je dois le dire. Et leur faire ça d'un coup. Voilà. Ça a été très excitant pour moi de le faire, mais enfin, j'ai réussi à le faire, je l'ai fait. Voilà, alors là, j'ai à peu près garni, moi, ma musette d'auteur. Pour les élèves, je n'ai pas besoin de plus. Et ça donne suffisamment de références. Je veux dire, si en plus je veux dire que Maine de Biran a beaucoup parlé de l'effort, ça va changer quoi à quoi? Ça leur a permis d'ajouter un « comme dit Maine de Biran » ou un « comme dit Malebranche ». Là aussi, je peux donner deux, trois citations. Mais enfin, j'ai fait à peu près le tour des auteurs dont j'ai organiquement besoin dans l'ordre de l'explication et de la mise en place des bases, pour que les bases soient vraiment des bases, commencent effectivement par le commencement, commencent par pourquoi telle chose est a priori et pourquoi telle autre chose ne peut être qu'a posteriori, c'est-à-dire commencer par une expérience qui ne sait pas encore de quoi elle est l'expérience. Voilà. Je n'ai pas besoin des autres. Je n'ai pas besoin de Husserl. Je n'ai pas besoin de Heidegger. Si Heidegger m'intéresse littérairement, c'est mon problème. Et à ce moment-là, je peux m'y intéresser par d'autres choses, par des résonances, par des couleurs. Mais à cet égard, pardon, je préfère Nietzsche. Et je continue à n'avoir pas besoin de Heidegger. Je ne voudrais pas le dire la tête sur le bio, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis, enfin, c'est quand même de notre génération, qui se sont passionnément intéressés à Heidegger, et je peux dire, enfin d'une certaine manière, ça a été leur fond de commerce. Mais je peux le dire la tête sur le bio, quelqu'un qui connaît bien son Platon et qui connaît bien son Nietzsche n'a pas besoin de lire Heidegger. Or, comme pour mon bonheur ou mon malheur, j'ai lu Platon et j'ai lu Nietzsche avant, plus Thomas Mann, en un sens, je veux dire, je n'ai pas besoin de Heidegger, tout simplement. Ce qui n'est pas porter un jugement de valeur. Je ne ferai pas comme M. Luc Ferry ou M. Bernard-Henri Lévy qui répondent qu'ils sont philosophes ou qui laissent imprimer qu'ils sont philosophes quand il s'agit de définir leur profession. Je ne me prétends pas philosophe. J'ai été professeur de philosophie et j'ai donc eu à m'occuper de philosophie en journée et année additionnées, beaucoup plus que eux deux réunis, mais je ne me prétends pas philosophe. Et j'ai eu besoin de ce dont mes élèves ont besoin. Ce dont j'ai eu besoin par ailleurs, c'est de la musique comme culture et de la musique comme apprentissage d'une méthode, comme apprentissage d'une écoute et autre apprentissage de l'attention. Et j'ai eu besoin de la nourriture littéraire prise chez les romanciers et chez les poètes, mais dans les textes des philosophes, je n'ai en tant que professeur et pour mes obligations, eu besoin de personne, et à titre de personne privée, bah, pardon, on trouve mieux ailleurs, dans d'autres écrits.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuzz.com/tubeuf.